السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، tout d'abord nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'atteindre ce mois béni qu'est le mois de Ramadan. Et sachez que cela est une grande grâce de la part d'Allah sur nous, du fait d'être en vie et d'atteindre le mois de Ramadan. Beaucoup avant nous étaient présents à nos côtés dans ce mois l'année passée. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus là pour s'exprimer, ils ne sont plus là pour œuvrer. Ils ont été enterrés, car leur terme a été déterminé et arrêté. Donc si toi, tu es vivant dans le mois de Ramadan, tu dois savoir que c'est un bienfait d'Allah pour lequel tu dois être reconnaissant et le remercier. Ceci étant dit, celui qui atteint le mois de Ramadan doit savoir ce qu'il doit faire, comment se comporter, les choses indispensables et ce par quoi il va orner son mois, ses jours, ses nuits, afin d'obtenir les hauts degrés auprès de son Seigneur, la seule divinité. Après avoir mentionné ces choses à faire, ce programme, on s'arrêtera sur un point essentiel et un grand fondement qui accompagne le musulman quotidiennement. Mais avant ça, on va mentionner 6 choses. Celui qui les préserve dans le mois de Ramadan pourra espérer avoir réussi son mois. Celui qui préserve ces 6 choses dans le mois de Ramadan pourra espérer avoir réussi son mois. La première chose, c'est as-siyam, c'est le jeûne. Et à la fin, j'interrogerai sur ces 6 points. La première chose, inshallah, la première chose à préserver dans le mois de Ramadan, c'est as-siyam, c'est le jeûne. Ce mois-là est le mois du jeûne. Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ayyaman ma'dudat. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme il a été prescrit aux générations passées. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ce sont des jours déterminés. Ce sont des jours déterminés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Bunya l'islam ala khams ». L'islam repose sur 5, c'est-à-dire 5 fondements, 5 piliers. Et il a mentionné parmi ces 5, Sawmu Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Et la récompense de celui qui jeûne, elle est grandiose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et avec espoir se voit pardonner ses péchés passés. Donc si tu jeûnes ce mois-là, qui se compose soit de 29 jours, soit de 30 jours, Allah t'efface tes péchés passés. La récompense, elle est très grande. Ça, c'est le premier point par lequel tu dois occuper tes jours. C'est le jeûne et sa préservation. Le deuxième point que tu dois préserver dans le mois de Ramadan est les prières de nuit, al-qiyam. Le prophète alayhi salat wa salam priait les nuits du mois de Ramadan et il recherchait activement Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit de la grande valeur. Et la récompense de celui qui prie les nuits de Ramadan, elle est également grandiose. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Celui qui prie la nuit de Ramadan, celui qui prie les nuits de Ramadan avec foi et espoir, se verra pardonner ses péchés passés. Donc s'il a jeûné, on lui efface ses péchés. S'il a prié les nuits de Ramadan, on lui efface à nouveau ses péchés passés. Et d'entre ces nuits, il y a une nuit qui est particulière. Il y a une nuit qui est spéciale. Comment s'appelle cette nuit ? Laylatul Qadr. Ça veut dire quoi, Al-Qadr ? La nuit du destin. Il y a un deuxième sens. Lequel ? Le destin, la prédestination, et un deuxième sens, ذات قدر. Ça veut dire quoi ? Voilà. La nuit du destin est la nuit de la grande valeur. La nuit de la grande valeur. Donc, Laylatul Qadr a combien de sens ? Deux sens. Le premier est la nuit du destin. Le deuxième, la nuit de la grande valeur. Et parmi cette valeur et cette baraka, cette bénédiction qu'on y trouve, Allah nous dit Laylatul Qadr est khayrun min alfi shahr. La nuit du destin, la nuit de la grande valeur est meilleure que 1000 mois. Tu adores Allah Azza wa Jal une seule nuit. C'est meilleur que 1000 mois dans laquelle il n'y a pas Laylatul Qadr. Et cette seule nuit, si tu pries dedans, tu adores Allah Azza wa Jal dedans. Le prophète alayhi salatu wa salam te dit Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque prie et la nuit du destin, la nuit de la grande valeur, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Ça fait combien de pardons pour l'instant qu'on a mentionné dans les hadiths ? Ça fait 3. Le premier suite à quelle action ? Le jeûne. Le deuxième suite à quelle action ? Juste la prière comme ça ? Quand tu pries la nuit, c'est-à-dire ? Tu pries la nuit par exemple dans le mois de Sha'ban ? On te pardonne tous tes péchés passés ? Oui ? Non, c'est pas ça la réponse. Les nuits du mois de Ramadan. Les nuits du mois de Ramadan. Et un troisième pardon, à quelle occasion ? Taraweh. Taraweh, c'est les nuits du mois de Ramadan. Un troisième pardon. Laylatul Qadr. La prière durant la nuit de Laylatul Qadr. Ça fait 3 pardons de la part d'Allah Azza wa Jal pour son serviteur. Et de là, tu vois la grande générosité, la grande miséricorde, la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Donc on a mentionné pour l'instant combien d'actions ? On a mentionné le jeûne. On a mentionné la prière de nuit. Une troisième action à préserver pendant le mois de Ramadan, c'est tilawatul Qur'an. C'est la lecture du Qur'an. La lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana ajwad an-nas. Le prophète alayhi salatu wa sallam était la personne la plus généreuse. Et le moment où il était le plus généreux, c'était le moment où Jibril lui venait yudarisul Coran. Il lui enseignait le Coran. Il lui faisait réviser le Coran. Il lui lisait le Coran. Il lui transmettait, lui enseignait le Coran. Donc c'est une sunna de lire avec abondance le Coran durant le mois de Ramadan. Et c'est le mois durant lequel le Coran a été révélé entièrement une première fois. Pas sur le prophète alayhi salatu wassalam, mais un endroit qu'on appelle Baytul Izzah, qui est élevé. Puis, il a été révélé de manière détaillée selon les divers événements, les différentes causes, ou sans même cela. Donc le mois de Ramadan, c'est le mois de la lecture du Coran. Celui qui lit une lettre du Coran, combien Allah Azza wa Jal lui donne de récompenses ? Une seule lettre. 10 récompenses. On lui donne une récompense, mais cette récompense est multipliée par 10, jusqu'à 700 fois, jusqu'à ce qu'on lui découpe le sœur. De Suratu al-Fatiha jusqu'à Suratu al-Nas. De Suratu al-Fatiha jusqu'à Suratu al-Nas. Il y a combien de sourates? Hein? Normalement, tout le monde lève la main. Ça, c'est le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est le livre de notre Seigneur. Tout le monde doit lever la main. Pour donner la bonne réponse, bien sûr.
114,
vous êtes d'accord ou pas? Oui. Une question plus difficile. Il y a combien de lettres? On a faim ou on n'a pas faim? Mais est-ce qu'on a faim de hasanat? Qui a faim de hasanat? Vous n'avez pas envie de hasanat? D'accord. Une lettre, il a dit 10 hasanat. Et si on lit tout le Coran? Hein? Il y a combien de lettres? Plus de 6000 lettres dans le Coran. Plus de 6200 lettres dans le Coran. Alors si tu lis la moitié du Coran, plus de combien de lettres? Plus de 3100 lettres. Hein? Des millions, des millions, des millions de hasanat. Si on disait à l'un d'entre nous, chaque jour tu vas venir 10 minutes. Hein? Chaque jour tu vas venir 10 minutes. Et pour chaque minute, je vais te donner 10 euros. Qui sera absent? Hein? Personne. Pourquoi on a cette motivation pour les darahim? Hein? Pour les euros? Pour les dirhams? Et on n'a pas cette motivation pour les hasanat. Donc la récompense, elle est inestimable. Elle est très grande. On doit prendre le mushaf, on doit lire la parole d'Allah Azza wa Jal pour obtenir ces millions de hasanat. C'est nous qui en avons besoin. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de notre adoration. Mais c'est nous qui sommes besogneux et dépendants de la récompense et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc celui qui lit une lettre du Coran a 10 récompenses. Maintenant, à toi de savoir si tu veux un peu de récompense ou beaucoup de récompenses. Plus tu veux des récompenses, plus tu lis le Coran. Plus tu veux des récompenses, plus tu lis le Coran. Na'am. Et même celui à qui la lecture est difficile, il a 2 récompenses. Une récompense pour la lecture, une récompense pour la difficulté. Et celui dont la lecture est facilitée, il est avec les anges. Il a des hauts degrés, il a une grande place. Ça, c'est la combienième action à faire pendant le mois de Ramadan? Non. Là, on a cité combien d'actions? 5 déjà? Non. C'est quoi la première? Le jeûne. La deuxième. La prière de nuit du mois de Ramadan. La troisième? Non. La troisième action à faire dans le mois de Ramadan. La lecture du Coran. On en a donc mentionné combien? 3. La quatrième action dans le mois de Ramadan, c'est it'am al-ta'am. C'est le fait de nourrir les gens. C'est al-sadaqat. C'est al-jud. C'est la générosité avec nos biens, particulièrement, particulièrement la nourriture. Le prophète alayhi salatu wassalam était la personne la plus généreuse. Et le moment où il était le plus généreux, c'était dans le mois de Ramadan lorsque Jibril alayhi salam lui enseigner le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: Man aftara sa'ima, celui qui nourrit un jeûneur aura sa récompense. Celui qui nourrit un jeûneur, falahu ajruhu, il aura sa récompense. Et celui qui nourrit un jeûneur, Ça ne veut pas dire forcément lui donner des dates avec lesquelles il va rompre son jeûne, ou le repas du soir, non. Mais tout ce que tu vas lui donner, à travers ce à travers quoi il va se renforcer pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, que ce soit dans les prières de nuit, que ce soit dans le jeûne de la journée, ou tout ce qui plaît à Allah Azza wa Jal et qu'il agrée. Donc, le muslim doit garder en tête cette grande adoration qu'est As-Sadaqa. Qu'est As-Sadaqa. Le prophète alayhi salat wa salam était le plus généreux. Est-ce qu'il était le plus riche? Non. Pourtant, il était le plus généreux. Et de là, on tire une grande science. C'est que le plus généreux, ce n'est pas forcément celui qui a le plus. Le plus généreux, c'est pas celui aussi qui donne, non plus celui qui donne le plus. Mais si tu donnes et tu te soucies des autres, et que tu as l'intention de faire du bien, et que tu te dis, si moi j'avais, je ferais, si moi j'avais, j'aurais aimé faire, juste avec cette intention-là, Allah Azza wa Jal va te donner beaucoup plus que les richesses des personnes riches ici. Donc, as-sadaqa, le fait de donner. Et si toi tu ne possèdes pas, tu peux encourager ceux qui ont à faire. Tu peux encourager tes parents. Tu peux encourager tes oncles, tes tantes. Et sache que tout ce qu'ils vont donner par ta cause, tu auras toi aussi la même récompense. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit "Ad-dalu ila al-khayri kafa'ili." Celui qui oriente vers une bonne action est comme celui qui l'a accompli. Celui qui encourage à une bonne action a la même récompense que celui qui l'accomplit. Naam. On a mentionné combien d'actions? On a mentionné 4. La cinquième, c'est l'i'timar. Al-umra fi shahri Ramadan. Une umra dans le mois de Ramadan. De la première nuit au dernier jour. Tout cela est le mois de Ramadan. Quel que soit le moment durant lequel tu as accompli l'umra, si c'est fait pendant le mois de Ramadan, tu auras accompli cette grande sunna de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Umratun fi Ramadan ta'adilu hijjah » Une umra accomplie durant le mois de Ramadan équivaut à un pèlerinage. Équivaut à un pèlerinage. Le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam. Le pèlerinage, celui qui l'accomplit convenablement, Allah Azza wa Jal lui efface tous ses péchés, il revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Le pèlerinage, la récompense, nul ne peut l'estimer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage, lorsque tu jettes les pierres sur la stèle, on t'efface 70 grands péchés parmi les péchés destructeurs qui anéantissent. Le pèlerinage, lorsque tu sacrifies la bête, en offrande à Allah Azza wa Jal, seul Allah Azza wa Jal connaît la récompense. Le pèlerinage, lorsque tu fais ton tawaf et que tu as fini, un ange vient et appose sa main entre tes omoplates et dit « Agis pour ton futur, tout ton passé t'a été effacé. » Le pèlerinage, cette grande action qui était l'action des prophètes et des messagers. Si tu fais la umra pendant le mois de Ramadan, le prophète alayhi salatu wa salam te dit, tu as la récompense d'un pèlerinage. Dans une autre version du hadith, hajjatan ma'i, un pèlerinage en ma compagnie. Un pèlerinage en la compagnie de qui? Du prophète alayhi salatu wa salam. Est-ce que vous connaissez meilleur que le prophète? C'est la meilleure créature d'Allah. C'est le meilleur des uns. C'est le meilleur des imams, le meilleur des prophètes, le meilleur des messagers. Alayhi salatu wa salam. Donc la umra, de manière générale, toute l'année, c'est une grande action qu'Allah aime et agrée. Mais dans le mois de Ramadan, durant le mois de Ramadan, la récompense n'est que plus grande. Ça fait combien d'actions? Ça fait 5. Et on a cité combien de points? 6. Donc il nous en manque 1. Le 6e point, c'est Ad-Dua. Dans le mois de Ramadan, on doit faire beaucoup de Dua. Les passages du Coran sur le Siyam sont dans quelle sourate en premier lieu? Dans quelle sourate du Coran on nous parle du jeûne du mois de Ramadan, de la révélation du Coran dans Ramadan, de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan? Dans sourate Al-Baqarah, n'est-ce pas? Et en plein milieu des versets du jeûne, en plein milieu des versets du jeûne, on nous parle de Dua. Quel est ce verset? On nous parle du jeûne. Et en plein milieu des versets du jeûne, on nous parle de Dua. Et nous, on doit méditer le Coran. On le lit, on cherche à le comprendre, à l'appliquer, à le mémoriser, on se soigne avec, on vit avec, on s'oriente avec, on cherche la réponse, le bonheur dedans. Mais aussi, on doit le comprendre. Allah nous dit, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ce verset-là n'est-il pas en plein milieu des versets sur le jeûne? Oui ou non? Oui. Pourquoi? Quelle est la sagesse? On doit réfléchir, on doit s'interroger. C'est parce qu'il y a un lien très solide, une corrélation très étroite entre le jeûne et Ad-Dua. Entre le jeûne et Ad-Dua, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le jeûneur a une invocation qui est exaucée. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, au moment de rompre le jeûneur a une invocation qui est exaucée. Donc il y a un lien entre le jeûne et Ad-Dua. Donc tu dois particulièrement dans le mois de Ramadan faire beaucoup de Dua. Ajoutez à cela que lorsque tu jeûnes, tu es en état d'adoration. Et plus tu es proche d'Allah, plus tes Dua sont exaucés. Et quand tu es en état de jeûne, tu délaisses le péché. Tu délaisses ce qu'Allah n'aime pas, tu vas vers ce qu'Allah aime, tu fais attention à ton comportement, à ta langue, tu préserves tes prières, et ainsi de suite. Tu lis plus le Coran, tu fais plus de sadaqat, tu es plus généreux, plus endurant, plus patient. Donc c'est un état propice à ce qu'Allah Azza wa Jal exauce tes doigts. Donc dans le mois de Ramadan, tu dois faire beaucoup de doigts. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, « وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ » Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Inna alladhina astakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ceux qui s'enorgueillissent face à mon invocation entreront en enfer avilis, humiliés. Celui qui demande à Allah, il a connu son rang. Celui qui ne demande pas à Allah, s'enorgueille, Allah va l'humilier. Iyadan billah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ad-du'a huwa al-ibada. Ad-du'a, c'est ça l'adoration. Ad-du'a, c'est ça l'adoration. Aussi, celui qui demande à Allah, celui qui ne demande pas à Allah se met en colère contre lui. Et celui qui demande aux gens, les gens se mettront en colère contre lui, ils ne l'aimeront pas. Les gens n'aiment pas que tu touches à leurs biens, ils sont avares, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Ils sont avares envers leurs biens. Mais Allah, plus tu lui demandes, plus il aime. Parce qu'il est riche et il est généreux. Allah Azza wa Jal donne avec largesse, mais ses richesses ne diminuent pas. Subhanahu wa ta'ala. Si du premier au dernier, du premier ins, du premier djinn jusqu'au dernier, chacun se réunissait sur une seule et même place, et qu'on invoquait Allah subhanahu wa ta'ala, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lui demander tout ce qu'on veut, Allah Azza wa Jal aurait donné à chacun sans que ça ne diminue quoi que ce soit de ses richesses. Si ce n'est comme l'aiguille, lorsqu'elle est trempée dans la mer et qu'on la ressort, ça enlève quoi de l'eau? Rien du tout. Allah Azza wa Jal est encore plus riche que cela. Tabaraka wa ta'ala. Donc demande à Allah tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu espères. Au lieu d'aller te plaindre à ta mère, ceci, cela, lève tes mains, demande à Allah Azza wa Jal. Tu voulais telle chose, tu ne l'as pas eue. Demande à Allah. Tu as telle chose, tu ne le voulais pas. Tu ne la voulais pas. Demande à Allah qu'il t'en préserve. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce que tu veux. Tu veux des chaussures, demande à Allah. Tu veux un qamis, demande à Allah. Tu veux la santé, demande à Allah. Tu n'as pas des parents qui ont des besoins. Tu n'as pas des parents qui ont une maladie. Tu n'as pas des parents qui sont fatigués. Tu n'as pas des parents qui travaillent. Demande à Allah Azza wa Jal de les aider. Demande à Allah Azza wa Jal de les soigner, de les guérir. Demande à Allah Azza wa Jal de les enrichir. Tu n'as pas des parents que tu veux avec toi au paradis. Demande à Allah de te donner le paradis ainsi qu'à eux-mêmes. Tu n'as pas un frère qui est turbulent, qui t'embête. Demande à Allah Azza wa Jal de le guider. Tout ce que tu cherches, c'est chez Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas d'examen, tu ne veux pas des meilleures notes. Tu n'as pas une leçon que tu ne comprends mal, que tu comprends mal. Demande à Allah de te la faire comprendre. Tout ce que tu veux, demande-le à Allah. Et le plus important, c'est le paradis. Le plus important, c'est de préserver de l'enfer. Donc tout ce dont tu as besoin, tu le demandes à Allah Azza wa Jal. On a mentionné combien d'actions à préserver pendant Ramadan ?
6.
Et on cite un septième en bonus. C'est al-i'tikaf. Vous savez ce qu'est al-i'tikaf ? Hein ? Qui sait ce qu'est l'adoration de al-i'tikaf ? Non, ça c'est al-dhabh. Ça s'appelle al-dhabh. Ou bien al-nahar. Al-i'tikaf, c'est la retraite spirituelle. C'est le fait d'aller dans la mosquée, particulièrement dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et de ne pas en sortir pour se consacrer au rappel d'Allah Azza wa Jal en espérant obtenir la récompense de Laylatul Qadr. C'est compris ? Al-i'tikaf, c'est le fait de rester dans une mosquée. Particulièrement dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, à la recherche de Laylatul Qadr. Dans ces 10 dernières nuits, on se coupe de nos habitudes, on se coupe des gens pour s'adonner au zikr, à la lecture du Coran, au dua et surtout à la prière de nuit. Parce que Laylatul Qadr, elle se cherche particulièrement avec deux grandes actions. La prière de nuit et ad-du'a. La prière de nuit et ad-du'a. C'est pour ça que lorsque Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, a dit au message d'Allah, vois-tu si je me trouve dans Laylatul Qadr, qu'est-ce que tu me conseilles de dire? Il lui a dit, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Oh Allah, tu es absoluteur. C'est-à-dire tu effaces les péchés. Tu aimes l'absolution, absous donc mes péchés. Aïcha a compris, a su, et elle était savante, que Laylatul Qadr, c'était un moment de dua. Alors elle lui a demandé quoi dire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a orienté vers la meilleure invocation. Voici la première partie du rappel. Quelles sont les 6 choses à préserver dans le mois de Ramadan ? Chacun va me citer un point. Comment est-ce que tu t'appelles ? Abdurrahman. D'accord. Abdurrahman, tu parles autant en dehors du cours que tu donnes de bonnes réponses. Hein ? Comment dois-je me comporter alors avec toi ? La sévérité parce que tu discutes avec ton voisin depuis le début, puis tu t'es arrêté ? Ou bien la mansuétude et la récompense parce que tu donnes des bonnes réponses et tu participes. Qu'est-ce que tu en penses? Ou bien on mélange les deux? Moi, je vais te donner un conseil. Délaisse la première partie, comme ça, on ne sera plus dans ce dilemme. D'accord? Le premier point. Le jeûne. Anas. La prière. Juste la prière comme ça? Des nuits. Tu vas trop vite pour moi. La prière des nuits de Ramadan. C'est ça le deuxième point. Le troisième. La lecture du Coran. Quatrième. Sadaqa. Particulièrement, on a précisé. Nourrir des gens et des jeûneurs. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? D'accord. Cinquième point. Al-Amra pendant Ramadan. Sixième point. Al-Dua. Et on a donné un bonus. Vous avez retenu le nom en arabe? Al-I'tikaf. Ça veut dire quoi, l'i'tikaf? Tu te souviens? Non? Endaman. Qui se souvient ce qu'est l'adoration de l'i'tikaf? Abdelrahman encore? Tfadlan. Rester dans la mosquée. Pour espérer obtenir la récompense de l'Ayatul Qadr, on s'occupe dans l'adoration d'Allah, dans le dhikr, on s'occupe de nos habitudes. Barakallahu fikoum. Vous notez ces six points, vous les retenez et vous les transmettez. Et bien évidemment, vous les appliquez. Est-ce que c'est clair? On fait une pause de 2 minutes si vous avez des questions et ensuite on passe à la deuxième partie. À la deuxième partie du cours, Inch'Allah ta'ala, sur un sujet très 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 important. Inch'Allah ta'ala. Plus important encore que le jeûne du mois de Ramadan. Vous imaginez? Très bonne question. Si on offre des dates à un jeûneur et qui rompt son jeûne avec ces dates-là, est-ce qu'on rentre dans le hadith? Oui, on rentre dans le hadith. Plus encore, là tu l'as aidé à appliquer la sunna du prophète alayhi salat wa sallam. Parce qu'on peut couper le jeûne de plusieurs façons. La meilleure manière de couper le jeûne, qui sait c'est comment? La meilleure manière, la meilleure. Avec des dates. Il y a plusieurs types de dates. Quelles dates? On les appelle les rotabat. C'est les dates qui sont mielleuses. Et il y a des dates qu'on appelle tamarat. C'est les dates sèches. D'accord? Il y a plusieurs types de dates. Ben, les dates qui sont mielleuses, na'am, c'est les meilleures dates pour rompre le jeûne. Si tu offres cela à un jeûneur, en plus d'avoir la récompense de sadaqa, de nourrir le jeûne, tu as la récompense de son jeûne. Mais en plus de la sunna, parce que tu l'as orienté vers la sunna, le prophète alayhi salatu wasalam rompait son jeûne avec 3 dates rotabat, 3 dates fraîches. S'il n'en trouvait pas, alors avec 3 dates sèches. Qui c'est le troisième niveau? S'il n'en trouvait pas, comment? Avec quelques gorgées d'eau. Avec quelques gorgées d'eau. Hein? Ça, c'est la sunna. Si tu veux le plus de récompenses, tu romps ton jeûne comme cela. Avec des dates fraîches. Si tu n'en trouves pas, avec quoi? Avec des dates sèches. Si tu n'en trouves pas, avec quelques gorgées d'eau. D'accord. Est-ce qu'on remplit la table, on mange et on ne va pas faire la prière du Maghrib au Masjid? Ou bien on rompt le jeûne, on va faire salat, on revient et on mange ce qu'Allah nous a facilité. Le meilleur croyant, il fait comment? Celui qui est derrière toi.
On rompt le jeûne, après on va à la mosquée.
Non. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Et c'est ce qu'il faut faire. Dites-moi rapidement s'il y a des questions, ensuite on poursuit, inshallah ta'ala. Salat ou Tarawih, au total, tu fais combien?
20 rak'at.
Hier, l'imam a prié 20 rak'at dans ta mosquée?
Non, c'est pas. Oui, il a prié 20.
Il a prié 20? D'accord.
Pourquoi tu fais 10 le soir et 10 le matin?
Il faut que tu demandes à l'imam qui a fait 10 le soir et 10 le matin. Mais je pense que c'est pour alléger et faciliter aux musulmans. Parce que si il fait longuement et beaucoup de raka'at, ça va décourager beaucoup de croyants et ils ne viendront pas. Je pense que c'est ça la sagesse, mais tu lui demandes directement, c'est mieux, Inch'Allah. D'accord ? Tu iras voir son imam et tu lui diras, Inch'Allah. D'accord ? Le jeune homme dit, si on offre des dates à un jeûneur, on a la récompense de ce jeûne. Alors ça veut dire qu'on n'a plus besoin de jeûner. Vous avez entendu sa question ? Est-ce que vous êtes d'accord ?
Non.
Toi, tu as été créé pour quoi ? Pour adorer Allah. Mais tu n'as plus besoin d'adorer Allah ? Si on suit cette logique, quelle logique? Dis-moi. Tu reviens sur ta parole? D'accord. Je vais te dire la logique. La logique, tu as été créé pour adorer Allah Azza wa Jal, et Allah t'ordonne de concurrencer les autres et de t'empresser d'accourir vers les bonnes œuvres. En nourrissant un jeûneur, tu vas avoir la récompense de son jeûne en plus. T'as compris? En plus. Est-ce que t'as un frère? Oui, d'accord. Si ton père te dit de faire ton lit et que tu fais ton lit, le tien, puis tu fais le lit de ton frère, tu as fait ton obligation et tu as rajouté, n'est-ce pas? Alors tu as plus de degrés encore, plus de récompenses, plus de valeurs. Tu me suis? Si toi, tu vas faire le lit de ton frère et tu ne fais pas ton lit, ensuite ton père monte et ton lit n'est pas fait. Est-ce que tu vas lui dire, bah, comme j'ai fait le lit de mon frère, eh ben, tu n'as rien à me dire du fait que je n'ai pas fait mon lit. Je n'ai plus besoin de faire mon lit parce que j'ai fait le lit de mon frère. Ça passe ça ou ça passe pas? Ça passe pas. Hein. Tu vas avoir des problèmes. D'accord. Ben, nous, on n'aime pas les problèmes. Quand tu jeûnes, c'est ton obligation, la tienne. Et quand tu nourris des jeûneurs, tu rajoutes des récompenses, tu rajoutes des degrés au paradis. Toi, tu veux les hauts degrés du paradis ou tu veux les plus bas? Tu veux les hauts degrés. Tout le monde veut les hauts degrés. Pour faire les hauts degrés, pour avoir les hauts degrés, il faut faire ce qui est obligatoire, puis rajouter ce qui est recommandé. C'est compris? Un troisième point, c'est pas fini. Reste avec moi. Quand tu as jeûné Ramadan, toi, tu es parfait? Non? Donc, il y a des déficiences dans ton jeûne. Il y a des imperfections dans ton jeûne. T'es d'accord? Comme nous tous, parce qu'on est humain. L'imperfection, c'est inhérent, ça colle à l'humain. N'est-ce pas? En faisant des bonnes actions recommandées, tu sais ce qui va se passer? Tu vas combler et tu vas corriger les fautes de ton jeûne du mois de Ramadan. Donc, tu vas pallier aux imperfections de ton jeûne. C'est pour cela qu'il faut faire des actions en plus, parce qu'on n'est pas parfait. Un dernier point et on passe à la suite. Toi, tu aimes Allah. Restez concentrés dans le cours. Toi, tu aimes Allah. Mais plus grand que cela, c'est le fait qu'Allah t'aime. Tu veux que je te donne une cause pour qu'Allah t'aime? Après avoir préservé les actes obligatoires, tu rajoutes des actes recommandés. Parce que dans le hadith, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes recommandés jusqu'à ce que je l'aime. Donc pour ces quatre raisons, tu vas faire tes obligations et tu vas rajouter des actes qui sont recommandés. C'est clair pour tout le monde?
Par exemple, si tu as des parents et tu vas au plus haut degré du paradis, est-ce que tu pourras avoir tes proches?
Celui qui est dans les hauts degrés du paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va le combler. Il pourra voir ceux du paradis, même ceux qui n'ont pas le même niveau. Et lis dans surat Al-Dhariyat, dans surat Al-Dhariyat ou surat Al-Tur, et tu trouveras un verset dans ce sens-là. D'accord? Et même certains seront élevés au niveau des autres. Allah Azza wa Jal va faire va donner grâce, sa grâce, à ceux qui ont les plus hauts niveaux, en remontant à son niveau les autres. Allahu Akbar. D'accord ? Naam. Laylatul Qadr, on nous a donné beaucoup de signes. Parmi ces signes, elle est dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Parmi ces signes, elle est dans les nuits impaires du mois de Ramadan. Parmi ces signes, si tu ne peux pas faire les efforts dans les 10 dernières nuits, fais au moins des efforts dans la 25e, 27e, 29e. Voici trois hadiths du prophète alayhi salatu wassalam qui t'oriente vers cela. Puis, il y a un signe après Laylatul Qadr. C'est qu'au matin, le soleil se lève et il n'y a pas les mêmes lueurs éblouissantes. Vous avez compris ? Vous voyez lorsque le soleil se lève et que tu le regardes, ça perturbe ta vue ou pas ? Pourquoi ? Parce qu'il y a les lueurs, il y a la lumière qui se réfléchit, n'est-ce pas ? Eh bien, Laylatul Qadr, arrivé au matin, le prophète m'a dit, il n'y a pas cela. Et il y a d'autres, ils se lèvent, mais tu ne vois pas que c'est éblouissant, tu arrives à le regarder. Alors chaque matin, il faudra surveiller ça pour espérer avoir atteint Laylatul Qadr. Mais en réalité, il y a une solution très simple pour être sûr d'avoir eu Laylatul Qadr. C'est laquelle ? Dans les 10 dernières nuits, tu fais des efforts. Dans les 10 dernières nuits, tu fais des efforts. Tu seras sûr d'avoir atteint Laylatul Qadr. Wallahu al-musta'an. Naam. Et Allah, une dernière question. Pourquoi tu commences toutes tes questions par est-ce que ça a un sens dans ta langue maternelle?
Non.
Ou c'est un tic de langage? Il n'y a pas de sens? Ou bien c'est la fatigue, c'est le jeûne qui te fait sortir ces sons-là? C'est la fatigue. D'accord. Reprends ton âme alors. T'as failli réussir, sans. Et Allah, tu peux y arriver.
Si, par exemple, t'es dans les 20 degrés au paradis, tu veux y aller plus haut, bah, comment tu fais ?
Si tu es dans les bas degrés du paradis,
ouais.
Sachant que le paradis est déjà élevé, et que tu veux aller dans les hauts degrés, comment tu fais ? Et tu vois, maintenant, là, aujourd'hui, là, tu poses la question, tu es vivant.
Oui.
C'est maintenant que tu peux faire. C'est maintenant que ça se passe. Tu veux les hauts degrés du paradis ? Travaille maintenant. Quand ton enseignant te donne ton examen avec la note, est-ce que tu viens, tu lui dis, Oustad, moi, j'ai 8, je veux 16. C'est possible ou c'est pas possible ? C'est pas possible parce que l'examen et le travail, c'était avant. Eh bien, alhamdoulilah, on est vivant. On peut obtenir les hauts degrés du paradis, incha'Allah ta'ala, mais il faut travailler maintenant. C'est pas une fois que tu meurs que tu peux agir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Idha mata ibn Adam in qata amalu illa min thalath. Lorsque le fils de Adam décède, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf trois. Une aumône qui perdure, une science dont continue à tirer profit après toi, après ta mort, et un enfant pieux qui fait dua pour toi. Tu as compris le hadith ? Les œuvres s'arrêtent. Les œuvres s'arrêtent. Sauf trois. Donc la première étape, tu travailles. Tu apprends la science, tu l'appliques, tu la transmets. Tu préserves les piliers de l'islam. Tu fais beaucoup d'actions après. Les œuvres obligatoires, tu rajoutes. Hein? Et là, tu auras, incha'Allah ta'ala, les hauts degrés du paradis. Puis, tu fais des sadaqat qui vont rester après ta mort. Puis tu apprends la science, tu enseignes la science comme ça. Tous ceux qui vont tirer profit de ta science après ta mort, eh bien tu vas continuer d'obtenir des hauts degrés, alors que tu es dans ta tombe. D'accord ? Hakada barakallahu fikum. Passons à la deuxième partie du cours. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était très important, n'est-ce pas ? on va parler d'une chose encore plus importante. On va parler d'une chose encore plus importante, alors soyez attentifs. Savez-vous quel est le plus grand délice du paradis? Tu as parlé des hauts degrés du paradis? C'est une parfaite transition pour notre propos. Savez-vous, chers frères, hafidhakumullah, wa barakallahu fikum, quel est le plus grand plaisir du paradis? Quelle est la plus grande récompense par laquelle Allah Azza wa Jal va combler ses serviteurs au paradis? Qui répond sans se tromper? Comment est-ce que tu t'appelles? Souhaïb? T'as la réponse, Souhaïb? Tafaddal. Oui, mais dans le paradis, quelle est la plus grande récompense qu'Allah Azza wa Jal donnera à ses serviteurs? C'est quoi le plus grand délice une fois entré au paradis? C'est ça la question. Tu as la réponse, Souhaïb? Non? Qui a la réponse? Qui va répondre sans se tromper? Toi au fond.
Voir Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est ça la réponse. Contempler le visage d'Allah Azza wa Jal. C'est le plus grand bienfait, c'est le plus grand délice du paradis. Et une des plus grandes causes pour obtenir ça, vous savez c'est quoi? Il y en a plusieurs. C'est pour ça que ma question est une des plus grandes causes. Hein? Le prophète alayhi salatu wasalam l'a mentionné dans le même hadith. Je vous donne la réponse. Le fait de préserver la prière. Particulièrement la prière du Fajr et la prière du Asr. Le fait de préserver la prière, particulièrement la prière du Fajr et la prière du Asr. Ainsi, nous entamons notre deuxième sujet. Le premier sujet, c'était quoi? 6 points à préserver pour réussir son jeûne du mois de Ramadan, son mois de Ramadan. Le deuxième sujet, ta'zim al-salah, l'importance de la prière, la grande valeur de la prière. Le plus petit d'entre vous, à quel âge? Tu as quel âge? 9 ans et demi. Pourquoi tu rajoutes le demi? Le mois prochain, tu as 10 ans. Qu'Allah allonge ta vie sur l'islam, sur la sunna. Qu'il te préserve et qu'il te permette de vivre encore beaucoup de ramadanat. Donc, notre sujet, c'est l'importance de la salat. Et après avoir entendu ce que vous allez entendre, incha'Allah ta'ala, rien n'aura plus d'importance pour vous que la salat, incha'Allah ta'ala. Certaines personnes, lorsqu'il y a leurs parents, ils font la prière. Mais lorsqu'il n'y a pas leurs parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prient pas. Mais nous, quand on prie, c'est pour nos parents ou bien c'est pour Allah? C'est pour Allah. Donc lorsque les parents sont absents, est-ce que ça doit changer notre accomplissement de la prière ou non? Non, parce qu'on n'est pas des hypocrites, on est des véridiques. N'est-ce pas? Est-ce que on peut tricher avec Allah? Il y a un endroit où tu peux te cacher, Allah ne te voit pas? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux aller dire une bêtise et Allah ne va pas l'entendre? Est-ce qu'il y a une chose que tu peux faire, Allah ne va pas le savoir? Non, parce que Allah Azza wa Jal, c'est l'alim, c'est le savant, c'est le basir, clairvoyant, c'est Samir, l'audient, celui qui entend tout. Ces trois noms, ces trois attributs font que tu adores Allah Azza wa Jal et que tu fais ça pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans le troisième volet du cours, on va étudier deux noms d'Allah Azza wa Jal, incha'Allah. Si j'oublie, vous me le rappelez, d'accord? Abdurrahman, toi qui aimes bien parler, tu me le rappelles? T'oublies pas? Qu'à la fin, le troisième volet, on va étudier deux noms d'Allah Azza wa Jal. Tu retiens? D'accord. dit Inch'Allah. On va citer plusieurs points qui vont témoigner de l'importance de la prière. Le premier point, c'est que la prière est le deuxième pilier de l'islam. Dans le hadith d'Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, dans le Bukhari Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Bunya l'islamu ala khams, shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqam al-salah. » L'islam repose sur cinq, c'est-à-dire cinq fondements, cinq piliers. Attester qu'il n'y a d'autre divinité méritant l'adoration que Allah et que Mohammed est le message d'Allah. L'accomplissement de la prière. Donc le premier pilier, tu dois adorer Allah seul sans rien lui associer. Toutes tes adorations, c'est que pour Allah Azza wa Jal, tu ne fais jamais de shirk. Et tu reconnais que Mohammed est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu adores Allah comme il te l'a montré, tu lui obéis. N'est-ce pas? C'est celui que tu aimes, plus que l'ensemble des gens. C'est ton exemple, ton imam suprême. Alayhi salatu wassalam. Quand tu as attesté de cela, immédiatement, tu dois accomplir la prière. Combien de prières par jour? 5 prières. Mais la récompense d'avoir accompli combien? 50 prières. 5 en nombre. Mais 50 en récompense, comme dans l'histoire du voyage nocturne, de l'ascension. Deuxièmement, parmi les points qui nous montrent l'importance de la prière, c'est que c'est une adoration qui a été ordonnée à l'ensemble des prophètes et des messagers. Vous saviez cela? La prière a été ordonnée à tous les prophètes et tous les messagers. Avant le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Et il y a beaucoup d'exemples dans le Coran. Dans surat Safat, Allah Azza wa Jal nous dit فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Allah Azza wa Jal nous parle de quel prophète dans cette surah? Du prophète Yunus alayhi salam, lorsqu'il a été avalé par la baleine et qu'il s'est retrouvé dans trois ténèbres, les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer et les ténèbres du ventre du poisson. Il a invoqué Allah Azza wa Jal en disant quoi? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Allah Azza wa Jal a répondu ou n'a pas répondu? Fasajabna la wa najayna. Nous lui répondîmes et nous le sauvâmes. Quelle est la cause? Allah Azza wa Jal l'a sauvé et il nous mentionne la cause. Comment? Il faisait beaucoup de tasbih. Mais ça veut dire quoi le tasbih dans ce verset, Anas? Oui, mais dans le tafsir, tu sais comment est expliqué le tasbih? La prière, barakallahu fik. Ibn Abbas radiallahu anhuma, explique, n'eût été du nombre, s'il n'avait pas été du nombre de ceux qui font beaucoup de tasbih, Abdullah ibn Abbas nous dit, ay min al-musalli, c'est-à-dire de ceux qui font beaucoup la prière. Allah Azza wa Jal l'a sauvé de par la ilaha illallah et de par la prière. Et ce sont les deux premiers piliers de quoi? De l'islam. Ce sont les deux premiers piliers de l'islam. Allah Azza wa Jal l'a sauvé par cette prière. Et c'est la preuve que les prophètes avant faisaient quoi? La prière. Un deuxième exemple, le prophète Ibrahim alayhi salam. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar' inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah. Ibrahim alayhi salam invoque Allah Azza wa Jal. Il dit qu'il a laissé une partie de sa descendance, il a laissé son fils Ismaïl avec sa mère Hajar à Mecca, une terre sur laquelle il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'eau. Ô mon Seigneur, pour qu'ils accomplissent la prière. Pour qu'ils accomplissent la prière. Naam. Un autre exemple. Rabbi ja'alni muqima salah wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim alayhi salam invoque Allah et demande à Allah de faire en sorte que lui ainsi que sa descendance soient des gens qui préservent la prière. Un autre exemple avec Ismaïl. Wa dhkur fil kitab Ismaïl. Innahu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah. Et mentionne dans le livre Ismaïl, Il était véridique en matière d'engagement. C'était un messager et un prophète. Et il ordonnait à sa famille quoi? La prière et la zakat. Il ordonnait à sa famille la prière. On mentionne un autre exemple, Ishaq. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'la al khayrat wa iqam as-salah wa iqama as-salah wa ita'a az-zakah. On mentionne ici Ishaq alayhi salam et on nous dit et nous leur révéla l'accomplissement des bonnes œuvres, wa iqam as-salah, l'accomplissement de la prière, wa ita az-zakah, le fait de s'acquitter de la zakat. Un autre exemple, Shu'aib alayhi salam, ya Shu'aib as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. Encore un exemple pour Shu'aib alayhi salam, on mentionne la prière. Un autre exemple, Moussa alayhi salam. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri. Allah azza wa jalla révèle à Moussa alayhi salam. Je suis Allah. Nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est moi. Adore-moi donc et accomplis la prière pour te souvenir de moi. De tous ces versets, qu'est-ce qu'on tire? On tire que la prière est une obligation qui a été ordonnée non seulement au prophète Mohammed alayhi salat wa salam, mais également au prophète avant lui. Dans Surat Sad, il y a l'exemple de Daoud. Il y a l'exemple de Suleyman alayhi salam. Dans Surat Ali Imran, l'exemple de Zakaria. Et beaucoup d'autres exemples encore. Tout cela nous montre quoi? Que la prière est une des œuvres les plus importantes. Le troisième point qui nous montre l'importance de la prière. Soyez concentrés. Parmi les dernières recommandations du prophète alayhi salat wa salam, il y a quoi? Il y a la prière. Il y a la prière. Et qui est ton exemple? C'est le prophète Mohammed alayhi salat wa salam. Dans sa maladie de mort, le prophète alayhi salat wa salam ne pouvait plus sortir à la mosquée. Et savez-vous quelle est la dernière prière qu'a prié le prophète alayhi salat wa salam à la mosquée? La dernière prière. Ça, c'est une grande science. La dernière prière. Dans quel jour et quelle est cette prière? Qui connaît la réponse? Soyez, je connais la réponse. Comment? Le lundi? Non. 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 Notez, la dernière prière que le prophète alayhi salat wa salam a prié à la mosquée, c'est la prière du dhuhr, yom al-khamis. La prière du dhuhr, le jour du jeudi. Après cela, sa maladie s'est intensifiée. Ses douleurs ont été tellement lourdes que durant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, il n'a pu se lever et assister à la prière en groupe. Il a donc ordonné à qui de faire l'imam? Abu Bakr. Car c'est le meilleur des compagnons. Et ça allait être le calife des musulmans après cela. Mais le lundi, 3 jours après, à la prière du Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a regardé de sa lucarne, de chez Aïcha, qui donnait où? Qui donnait sur? Sur la mosquée. Qu'a-t-il vu? Comme le raconte et le relate Anas ibn Malik dans le Bukhari Muslim, il a vu les musulmans. Il a vu les musulmans en rang. Et il a souri. Et il a ri. Anas ibn Malik décrit le visage splendide du prophète alayhi salat wa salam, telle une feuille du mushaf. Il dit, ça a failli me perturber dans la prière, tellement il était heureux. Et lorsque Abu Bakr a su que le prophète alayhi salatu wassalam regardait par la fenêtre ou par la lucarne, il a voulu marcher à reculons pour laisser le prophète alayhi salatu wassalam prendre la place d'imam. Mais le prophète alayhi salatu wassalam a fait un geste pour dire, reste à ta place et complète cette prière. Puis, il a refermé le rideau. Et c'est ce jour-là, le lundi, qu'il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Jeune croyant, méditez cet événement. Quel est ce dernier événement qui a fait sourire le prophète, alayhi salatu wa sallam, qui a rempli son cœur de joie? C'est de voir sa communauté est réunie pour accomplir la prière en groupe à la mosquée, la prière du Fajr. C'était la prunelle de ses yeux. C'était son délice culminant dans ce bas-monde. La chose qu'il aimait le plus, c'était la prière, ce dans quoi il trouvait son repos, son plaisir. Sa jouissance maximale était dans la prière. Le fait de se tenir debout devant Allah Azza wa Jal pour réciter sa parole, le Coran, s'incliner, se prosterner, le louer, le glorifier, subhanahu wa ta'ala. Et cette vision qui a réjoui les compagnons, pensant qu'il allait mieux, et qu'il allait être guéri, et qu'il était en rémission, les a réjouis. Et lui s'est réjoui de les voir ainsi. Mais il ne savait pas que c'était un regard d'adieu, que c'était un sourire d'adieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, jeune croyant, si tu sais que la dernière chose qui a fait sourire ton prophète, alayhi salatu wassalam, si tu sais que la dernière chose qui a rempli son cœur a été de voir sa communauté réunie pour la salat, est-ce que toi, tu vas être négligent dans ta prière? Est-ce que toi, tu vas jouer avec la prière? Ou est-ce que tu vas lui donner la plus haute importance? Si le prophète, alayhi salatu wassalam, avait été vivant, est-ce qu'il nous aurait vu, nous, à la prière? Est-ce qu'il nous aurait trouvé, nous, à la mosquée? Est-ce que nous, on aurait été une cause de la joie de celui qu'on aime plus que tout le monde, plus que nos parents, plus que nos enfants, plus que nos meilleurs amis? Pose-toi la question. Quelle place a la prière dans ta vie, cher croyant? Tu es jeune, tu es fort, tu es en bonne santé, walhamdulillah. Est-ce que tu utilises cette force dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal? Ou bien que dans le jeu, l'amusement et le sommeil et le repas? Le prophète alayhi salatu wassalam a souri et a ri parce qu'il a vu ses compagnons réunis. Et c'était un sourire d'adieu. Tu dois méditer ce hadith. Et tu dois en comprendre sa valeur et son importance. Au moment de la prière, je mets tout de côté. Au moment de la prière, je me prépare. Certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils faisaient le wudu, ils changeaient de couleur. Quand ils allaient à la mosquée, ils pleuraient en leur demandant « Pourquoi êtes-vous dans cet état ?» Ils répondaient « Ne savez-vous pas devant qui je vais me tenir ? Devant Allah, le Seigneur des mondes. » Lorsque tu es convoqué par une personne importante et que tu es reprochable, tu as peur. Peut-être tu n'endors pas de la nuit. On va te remettre tes examens, tes notes et ainsi de suite. Ou tu as fait une bêtise gravissime et ton père est de retour. Tu te sens mal. Mais là, c'est Allah, il sait tout, il voit tout. Cette prière, tu ne dois pas jouer avec elle. C'est la première chose qu'on va juger au Malqiyam. Si elle est bonne, tout le reste du jugement sera facile. Si elle est mauvaise, si tu jouais, si tu rigolais dans cette prière, si tu esquivais la prière, si tu faisais semblant de l'accomplir, si tu regardais à droite et à gauche pendant cette prière, si tu faisais mal et le dos pour accomplir cette prière, alors tout le reste du jugement sera terrible. On rigole pas avec la prière. La prière, c'est le deuxième pilier de l'islam. La prière, elle a cette importance que tu vas entendre. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, nous dit la dernière parole du messager d'Allah, azza wa jal, sallallahu alayhi wa sallam, fut « Es-salah, es-salah, ittaqullaha fima malakat aymanukum. » Prenez soin de la prière. Prenez soin de la prière. La dernière recommandation du prophète, alayhi salatu wassalam. Et plusieurs ahadiths sont venus dans ce sens-là. À la fin, il n'avait même plus la force de faire sortir sa voix. Il continuait de dire cette recommandation. Sallallahu alayhi wa sallam. La prière avait donc cette importance pour le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, si tu l'aimes, cette prière doit avoir cette grande importance pour toi. Le troisième point qui nous montre l'importance de la prière, c'est que tous les ordres ont été ordonnés au prophète alayhi salat wa sallam alors qu'il était sur terre. Par contre, la prière lui a été ordonnée alors qu'il était où? Au-dessus des sept cieux élevés vers Allah Azza wa Jal. Allah lui a ordonné la prière et lui a parlé de vive voix comme il a parlé à Moussa alayhi salam de vive voix. Et il lui a ordonné la prière. Ça nous montre quoi? Que la prière, c'est l'ordre le plus important. Que la prière, c'est l'ordre le plus important. Et malheureusement, beaucoup ont négligé cette prière. Beaucoup n'accordent pas d'importance à cette prière. Or, celui qui aime le message d'Allah Azza wa Jal véritablement et qui n'est pas hypocrite, il aime la prière. Il prie cette prière. Il l'a prie pour Allah. Pas parce que ses parents lui disent de prier. Il l'a prie pour Allah, sérieusement, à l'heure. Et quand il rentre dans la prière, il ne joue plus. Il ne s'amuse plus. Il est sérieux parce qu'il prie pour Allah. Il sait qu'Allah le voit. Il sait qu'Allah le surveille. Il sait qu'Allah va le juger pour cette prière. Voici la recommandation de votre prophète avant de mourir. Es-salah. Es-salah. Le prophète alayhi salat wa salam nous dit Man hafaza alayha kanat lahu nuran wa burhana wa najatan yawm al-qiyamah. Celui qui préserve la prière, elle sera pour lui une lumière. Elle sera pour lui un argument et un salut le jour de la résurrection. Et celui qui ne la préserve pas, elle ne sera ni une lumière, ni un argument, ni un salut. Écoutez bien. Le jour de la résurrection, il sera avec qui? Il sera avec Qarun. Il sera avec Fir'aun. Il sera avec Haman et avec Ubay ibn Khalaf. Les têtes de la mécréance, les têtes de l'égarement, chacun à son époque. Vous connaissez tous Qarun. Vous connaissez tous Fir'aun. Haman, le ministre de Pharaon. Hein? Et Qarun, celui qui est un des plus riches, quand on lui disait « Sois reconnaissant envers Allah », il disait « Non, c'est grâce à moi toutes ces richesses. Allah sait que je mérite ça. C'est par mon intelligence, c'est par ma science. » Il était orgueilleux, il était vaniteux, il était ingrat. Allah Azza wa Jalla l'a enseveli, l'a avalé dans la terre. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Et vous lirez son histoire dans le Coran. Ubay ibn Khalaf, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui délaisse la prière, il sera avec les têtes du faux, avec les têtes de l'égarement. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Bayna al-rajuli wa bayna al-shirki wal-kufr, tarku salah. Ce qu'il y a entre l'homme et la mécréance et le polythéisme, c'est le délaissement de la prière. Et il nous dit, la limite qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Celui qui délaisse la prière, il a mécru. Celui qui est croyant, il préserve sa prière. Il préserve sa prière. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Man salla salatana wa staqbala qiblatana. Celui qui prie notre prière et se dirige vers notre qibla et qui mange de ce qu'on sacrifie. Fadhalik al-muslim. Voici le musulman. Voici le musulman. Donc voici des grands principes qui nous montrent l'importance de la prière. La prière, jeune croyant, c'est la plus grande obligation. Et c'est la première chose qui sera jugée le jour de la résurrection. Et celui qui n'a pas de prière n'a pas de part dans l'islam. Comme le disait Omar ibn al-Khattab, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Awwalu ma tafqiduna min dinikum l'amana wa akhiru ma tafqiduna minhu s-salah » Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « La première chose qui disparaîtra de votre religion, c'est le fait de respecter les engagements, le dépôt. Et la dernière chose que vous perdrez sera la prière. » Sera la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première chose parmi les œuvres qui sera jugée le jour de la résurrection est la prière. Si elle est bonne, tout le reste du jugement le sera. Ce sera plus facile. Si elle est mauvaise, tout le reste du jugement sera difficile. Savez-vous la plus grande cause en délaissement d'œuvres qui fera entrer les gens en enfer? C'est le délaissement de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surah Al-Muddathir, Fi jannatin yatasa'alun 'anil mujrimin. Ma salakakum fi saqar. Les gens du paradis s'interrogeront sur les criminels, sur les mauvais, et diront: qu'est-ce qui vous a acheminé au Saqar? C'est quoi le Saqar? C'est l'enfer, un endroit de l'enfer. La première réponse, la première cause qu'ils mentionneront, écoutez, qalu lam nakum min al-musallin. Nous n'étions pas du nombre de ceux qui accomplissaient la prière. Le délaissement de la prière, c'est l'enfer. L'accomplissement de la prière, c'est le paradis. À nous de choisir ce qu'on veut. La première réponse, qalu lam nakum min al-musallin. On n'accomplissait pas la prière, c'est pour ça qu'on est en enfer. On ne nourrissait pas les pauvres. On ne nourrissait pas les pauvres. Dans Sourate Maryam, Allah Azza wa Jal nous dit: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah Azza wa Jal fait les éloges de ses prophètes et de ses serviteurs pieux. Puis il nous dit que des générations leur ont succédé. Ils ont abandonné la prière. Ils ont suivi leur passion. Ils iront dans Raïa. C'est quoi Raïa? Abdullah ibn Saoud a dit: Wadun ou Nahrun fi Jahannam. C'est une rivière en enfer. C'est une rivière en enfer qui a un goût détestable et qui est très profond. Qui a un goût détestable et qui est très profond. Voici ce qu'a mentionné At-Tabari dans son tafsir. Aussi, parmi ceux qu'on voit du délaissement de la prière, Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Al-Mursalat: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Ceux qui auront le malheur, ceux qui auront la menace, ceux qui auront l'enfer, lorsqu'on leur disait de s'incliner, ils ne s'inclinaient pas. L'inclinaison, tu l'as fait dans quelle action? Dans la prière. Ça veut dire qu'il ne priait pas. Ça veut dire qu'il ne priait pas. Le délaissement de la prière, c'est grave ici. Pourquoi est-ce que celui qui délaisse la prière sera avec Haman, Qarun, Fir'aun et Ubay ibn Khalaf? Écoutez. Chacune de ces personnes-là avait un vice. Chacune de ces personnes avait un vice et un égarement. Et chaque personne qui abandonne la prière ou la prie en dehors de son temps, c'est parce qu'il a un vice. Vous avez compris? C'est parce qu'il a une passion, il a choisi sa passion, il l'a fait passer avant la prière pour Allah. Quel était le point qui a touché ces quatre personnes? Écoutez bien. Maluhu, le premier c'est son argent. Le deuxième, Mulku, sa royauté. Le troisième, Ri'asato, son travail, son rang, son rôle, son poste. Et le quatrième, c'est son commerce. Le quatrième, c'est son commerce. Donc, celui qui est distrait de la prière par son argent, il a une ressemblance avec Haroun. Celui qui est distrait de la prière par sa royauté, il a une ressemblance avec Pharaon. Celui qui est distrait de sa prière par son travail, il a une ressemblance avec Haman. Et celui qui est distrait de sa prière par son commerce, il a une ressemblance avec Obey ibn Khalaf. Il a une ressemblance avec Obey ibn Khalaf. Abdullah ibn Saoud et les compagnons avaient compris l'importance de cette prière. À un point tel qu'il disait Man sarrahu an yalqa Allah ghadan muslima. Celui qui aimerait rencontrer Allah demain en étant musulman, qu'il préserve ses prières où on l'appelle, c'est-à-dire à la mosquée. Car ça fait partie de ce qui a été légiféré dans la sunna de votre prophète. Et si vous priez chez vous, vous allez abandonner la sunna de votre prophète. Vous êtes des jeunes hommes ou vous êtes des jeunes femmes? Vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes, je vous ai demandé. Vous êtes des hommes. Je répète la parole d'Abdullah ibn Saoud. لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. Si vous priez chez vous au lieu de prier à la mosquée, vous allez abandonner la sunna de votre prophète. Qui sont ceux qui prient dans les maisons et pour eux la prière, pour elles la prière est meilleure à la maison? Qui? Les femmes? Ou non? D'accord. Est-ce qu'il y a une femme dans la salle? Non. Les hommes prient où? À la mosquée, d'accord. Vous tous, à partir de maintenant, vous allez prier où? À la mosquée. Celui qui ne prie pas à la mosquée, il a une ressemblance avec qui? Avec les femmes. Qui est une femme? Personne? Si vous n'êtes pas des femmes, ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous allez prier où? À la mosquée. Qui va continuer à prier chez lui? Qui est une femme? Personne ne veut être une femme? Parce que paraît-il, il y a des garçons qui peuvent devenir des femmes, qui peuvent choisir d'être un homme ou une femme. A'oudou billah. Hein? Vous êtes des hommes ou vous êtes des femmes? Les hommes, ils prient où? Ils prient à la mosquée. Les vrais hommes, ils prient à la mosquée. C'est pas parce que tu es né de sexe masculin que tu deviens un homme. Il y a être né de sexe masculin et il y a être un homme. Si t'es un homme, il y a des caractéristiques. Hein? Sinon, tu ressembles plus aux femmes qu'aux hommes. Parmi ces caractéristiques, tu pries à la mosquée. Allah Azza wa Jalla nous dit, « Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a yudhkara fiha ismu. Yusabbihu lahu. Fi buyutin adhina Allahu an yurfa'a. Ou an turfa'a. Wa yudhkara. Fiha ismuhu. يُسَبِّحُ لَهُ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ رِجَالِ. Allah Azza wa Jal nous parle des hommes, les vrais hommes. Et nous dit, dans des demeures, qu'on a érigées, élevées, construites pour lui. Et dans lesquelles on mentionne son nom. On le loue, c'est-à-dire on prie, matin et soir. Il y a des hommes. لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ qui ne sont pas distraits par le commerce. Wala bay'un, ni par le négoce. An dhikrillah. Tu rappelles d'Allah, ils ne sont pas distraits. La prière à l'heure de la salat, c'est la salat. Il n'y a rien qui passe avant la salat. Si tu es comme ça, alors tu es un homme. Si tu n'es pas comme ça, alors tu es né de sexe masculin. Mais on ne peut pas dire encore de toi que tu es un homme. Vous avez compris ou pas? Ça, c'est les hommes. Tu veux être un homme? Qui s'occupe de sa mère? Qui embrasse sa mère? Qui fait du'a pour sa mère? Qui fait passer sa mère avant ses amis? Qui obéit à sa mère? Qui n'est pas un souci pour sa mère? Qui ne met pas en colère sa mère? Ça, c'est un homme. Sinon, tu es né de sexe masculin, mais tu n'es pas un homme. Tu ne prends pas soin de ta mère, tu n'obéis pas à ta mère, tu ne t'occupes pas de ta mère. Je ne te dis pas quand je serai grand, je vais m'occuper de ma mère, je vais choyer ma mère, je vais chérir ma mère. Quand tu rentres, t'embrasses pas ta mère. Quand elle rentre, tu cours pas vers elle pour l'honorer, pour l'accueillir. Tu mets pas toute ta vie entre parenthèses pour t'occuper de ta mère. T'es pas un homme. Vous avez compris c'est quoi les hommes? On a cité combien de caractéristiques pour l'instant? La prière à la mosquée, s'occuper de sa mère. Il y a encore plein de caractéristiques. Vos professeurs vont nous apprendre à devenir des hommes. Pas des faibles. Pas des ressemblances avec les femmes. Des hommes. Vous avez compris? Vous pensez qu'un homme, c'est celui qui est plus fort que son voisin? Hein? Un homme, c'est celui qui se moque de ses camarades? Un homme, c'est celui qui frappe et qui dit « je suis le plus fort » et qui monte ses muscles, mais il n'arrive pas à prier de la rak'a dans salat al-tarawih? Vous croyez que c'est ça, un homme? Hein? Et il va pleurer auprès de sa maman. « Maman, j'ai faim, il n'arrive pas à jeûner Ramadan un jour. » Ça, c'est un homme. Il frappe les gens et dans l'adoration d'Allah, il est faible. C'est pas ça, un homme. Un homme, c'est pas celui qui terrasse les autres. C'est pas celui qui opprime les autres. C'est pas celui qui frappe les autres. C'est pas celui qui se moque des faibles. C'est pas ça un homme. Un homme, c'est celui qui se tient debout comme Allah, il veut le voir. C'est ça un homme. Un homme, c'est celui qui s'occupe de sa famille. C'est ça un homme. Un homme, c'est celui qui obéit à Allah. C'est celui qui délaisse les péchés. C'est ça un homme. Vous avez compris? Quant à celui qui fait la hagra aux autres, c'est un faible. Celui qui fait la hagra aux autres, c'est un faible. Celui qui se moque de ses camarades, c'est un faible. Celui qui tape les autres, c'est un faible. Vous avez compris ou pas? C'est pas un homme. Mais il est né de sexe masculin, c'est tout. S'il veut devenir un homme, il faut qu'il obéisse à Allah. Il veut devenir un homme, il faut qu'il prie à la mosquée. Il veut devenir un homme, il ne joue plus avec la salat. Il veut devenir un homme, il prend soin de ses parents. Il veut devenir un homme, il est doux. Et il utilise sa force pour défendre les faibles. Ça, c'est un homme. Parmi les points qui nous montrent l'importance de la prière, écoutez bien. Deux fois, on aura à se tenir debout devant Allah. Vous savez, c'est quoi ces deux moments? Il y a un moment qui se répète 5 fois par jour. Et il y a un autre moment qui se passera une seule fois. Quel est le premier moment?
Pendant la prière.
Excellente réponse. Quel est le deuxième moment? Le jour du jugement dernier. Barakallahu fikum ahsantum. Excellente réponse. Excellente réponse. Quant au premier mawqif, c'est dans ce bas monde lorsqu'on prie. Quant au deuxième mawqif, c'est dans l'au-delà, lorsqu'on va être ressuscité. On sera nu, pieds nus, non circoncis, dépouillés de toutes nos richesses. Voici deux stations. Écoutez bien. Celui dont la première station est bonne et correctement accomplie, Allah va lui faciliter la deuxième station. Vous avez compris ou pas? Celui dont la première station est négligée, alors dans la deuxième station, il sera effrayé. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier sérieusement. On doit prier sérieusement les 5 prières, à l'heure, à la mosquée, avec concentration, avec recueillement. On doit apprendre les conditions de la prière, les piliers, les obligations. On doit correctement les accomplir. On ne doit pas être négligent, on ne doit pas jouer dans la salate. Le prophète alayhi salat wa salam a dit, comme j'ai mentionné, dans Hadith Abi Hurayra, Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yawm al-qiyamati min 'amali as-salah aw salatu. La première chose qui sera jugée par les actes du serviteur le jour du jugement dernier, c'est sa prière. Si la prière est bonne, il aura réussi et obtenu le succès. Si la prière est mauvaise, il aura perdu et sera malheureux. Il aura perdu et sera malheureux. Rapporté par At-Tirmidhi al-Nasa'i, authentifié par Al-Albani, rahmatullahi alayhi. Donc, méditez ces deux stations et préparez votre rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. À toi de choisir avec qui tu voudras être ressuscité. Ceux qui ont bien prié ou ceux qui ont négligé leur prière. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. » Toute ma communauté entrera au paradis sauf celui qui refuse. Mais qui refuse au messager d'Allah? Il a dit « Man ata'ani dakhala al-janna. » Celui qui m'obéit entrera au paradis. « Wa man asani faqad aba. » Et celui qui me désobéit, voici celui qui s'y refuse. Voici celui qui se refuse. Vous savez combien de temps restera debout le jour de la résurrection? Combien de temps durera ce jour-là? Il durera 50 000 ans. Un jour, 50 000 ans. Vous imaginez? Qui peut rester debout juste 24 heures? Hein? Juste 24 heures, un seul jour. Là, c'est un jour. Il ne dure pas 24 heures. Il dure 50 000 ans, Allahu Akbar. Mais si ta prière est bonne, si tu préserves cette prière, Allah Azza wa Jal va te préserver, il va te faciliter. La prière, c'est à l'heure. La prière, c'est à la mosquée. La prière, c'est avec recueillement. La prière, c'est sans amusement. Et pour finir, on va mentionner la plus grande récompense que vous avez à obtenir en accomplissant la prière. إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, comme le rapporte Suhaib radiallahu anhu, lorsque les gens du paradis entreront au paradis, Allah, l'immense, l'élevé, dira, voulez-vous une chose que je vous ajoute? Ils répondront, أَلَمْ تُبَيِّدْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةِ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ. Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis? Ne nous as-tu pas sauvés de l'enfer? C'est-à-dire, que pourrions-nous obtenir de plus ou souhaiter de plus? Fayakshifu al-hijab. Allah enlèvera le voile. Il a un voile devant son visage, subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu shay'an habba ilayhim minan nazar ila rabbihim. Allah enlèvera le voile et rien n'aura été donné aux gens du paradis comme plaisir plus grand que de contempler leur Seigneur. Que de contempler leur Seigneur. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran que celui qui veut voir Allah, il doit bien préserver sa prière. Il nous dit Wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idhin basira tadhunnu an yuf'ala biha faqira kalla idha balagati taraqi wa qila man راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صلى فلا صدق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الله عز وجل nous montre dans Sourate Al-Qiyamah que ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont le visage de leur Seigneur. Et il y aura des perdants. Qui sont ces perdants-là? Ces perdants-là, on nous dit, ils ne faisaient pas sadaqa et ils ne priaient pas. Ils ne faisaient pas sadaqa et ils ne priaient pas. Donc il y a un lien très fort entre la prière et le fait de regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Et la plus grande cause, on a dit après le tawhid, c'est quoi? C'est préserver la prière. Parce que le prophète, alayhi salat wa salam, quand il a mentionné le hadith sur le fait de regarder, ama innakum satarawna rabbakum, sachez assurément que vous verrez votre Seigneur, kama tarawna al-qamar, la tudamuna fi ru'yati, comme vous voyez la lune, vous ne gênerez pas, vous ne vous opprimerez pas dans sa vision. Mais, fa in istata'tum alla tughlabu. Si vous pouvez ne pas être battu par une prière, qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha faf'alu. Si vous pouvez ne pas être battu par une prière avant le lever du soleil et avant son coucher, faites-le. Quelle est la prière avant le lever du soleil? Hein? Le fajr. Quelle est la prière avant le coucher du soleil? Le asr. Donc celui qui préserve le fajr et l'asr, toutes les autres prières, il va les préserver et il aura la grande récompense de contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. jeunes croyants, craignez Allah tabaraka wa ta'ala, apprenez la science utile, mettez en pratique les œuvres pieuses. Ne vous dites pas on est petit, on est ceci, on est cela. Abdullah ibn Abbas avait votre âge. Anas ibn Malik avait votre âge. Usama ibn Zayd avait votre âge. Al-Bara ibn Azib avait votre âge. Ils sont devenus l'élite des compagnons. Et nous, on a besoin d'élite. On n'a pas besoin de youtubeurs. On n'a pas besoin d'influenceurs. On n'a pas besoin de footballeurs. On n'a pas besoin de je ne sais quoi d'autre. On a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes du futur. Et ces gens-là, c'est vous. On a besoin d'hommes dotés de science, dotés de piété, de mise en pratique. On a besoin d'hommes dotés de bons comportements. On a besoin d'hommes qui vont s'occuper de nous quand on va prendre de l'âge. On a besoin d'hommes qui vont s'occuper des mamans, qui vont s'occuper de leurs sœurs, qui vont s'occuper de leurs enfants. On a besoin d'hommes qui vont nous enseigner notre religion. On a besoin d'hommes qui vont savoir nous laver quand on va mourir, qui vont nous enterrer et prier sur nous. On a besoin d'hommes qui vont faire l'istighfar pour nous après notre mort. On a besoin d'hommes. Et si ces hommes de demain ne sont pas vous, qui alors ? هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات وللأحياء منهم وللأموات اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على الصيام والقيام اللهم عنا على الصيام والقيام اللهم عنا على الصيام والقيام اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم الشكور مجيب الدعوات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.